Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la victoire finale. Nous arrivons à l'étude numéro 15. Aujourd'hui, nous aurons comme titre le nom du Seigneur. En effet, Dieu a fourni beaucoup de puissantes armes spirituelles pour abattre les forteresses de l'ennemi. Le saint nom du Seigneur, la sainte parole de Dieu et le sang de Jésus, ce sont les trois grandes armes de notre combat. Ces armes ont une grande puissance. Et parce que la puissance se trouve dans l'arme, nous sommes pratiquement incapables d'arrêter Satan sans l'utilisation de ces armes. Il faut donc apprendre à les utiliser avec efficacité. Vous avez compris, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, que ces armes, ce ne sont pas des revolvers. Mais ces armes sont la parole spécifique à un moment donné de la parole de Dieu en répétant à l'ennemi, par exemple, une certaine phrase qui vient des Saintes Écritures pour contrecarrer ses attaques. Ça s'appelle les armes. Ce sont des armes spirituelles. Le saint nom du Seigneur nous a été donné afin que nous puissions nous en servir. En effet, il a été donné aux croyants pour que nous en servions inconditionnellement, et cela dans le service de Dieu dans le monde. En fait, Dieu nous a donné une certaine procuration pour l'utilisation du saint nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Essayons de bien comprendre. Voici une explication simplifiée. Un homme s'était rendu dans une ville pour affaires. Il se trouve obligé de la quitter avant d'avoir pu terminer ses transactions. Alors, il désigne quelqu'un pour pouvoir agir à sa place et il lui donne la pleine délégation de ses pouvoirs. Oui, Jésus nous a confié, à vous et à moi, la délégation des pouvoirs. L'autorité transmise par une personne à une autre, cela s'appelle délégation de pouvoir et elle doit être attestée juridiquement, elle doit être signée et contresignée. Les conditions et l'ampleur de cette autorité octroyée doivent donc être précisées assez clairement. Par exemple, essayons de donner un simple exemple de délégation de pouvoir. C'est un exemple. Je sous-signe Henry Rottinger, rue des Cèdres 12 à Genève. Je déclare avoir délégué les pleins pouvoirs au pasteur S. Reichenbach pour agir en mon nom et à ma place dans toute transaction en mon absence. Donc, je lui donne toute autorité à cette personne pour agir à ma place et pour prendre les décisions que j'aurais prises si j'avais été personnellement présent. Je certifie l'authenticité de ce document en ce jour, en cette année, etc. Eh bien, Jésus-Christ, c'est en quelque sorte notre homme d'affaires qui s'est absenté. Vous comprenez ce que ça veut dire. Il est ressuscité, il n'est plus ici en présence, il est pour l'instant de sa personne absent. Mais, il nous a donné, à nous les croyants, il nous a donné la totale délégation de pouvoir, tous les pouvoirs pour agir à sa place et en son nom, et pour faire tout ce qu'il aurait fait lui, ou tout ce qu'il aurait pu faire s'il était présent en personne. Il y a donc beaucoup de preuves bibliques de cette procuration qui est donnée aux chrétiens. Dieu met la prière sur un fondement juridique, et cela à cause de nos droits pour pouvoir utiliser le Saint-Nom de Jésus pour demander et pour recevoir de Dieu le Père toutes ces choses que nous demandons, toutes les choses que demandent ces rachetés. Les rachetés, c'est vous et moi. Nous voyons donc ces enseignements dans les versets suivants. Saint Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous puissiez aller et que vous puissiez porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Saint Jean chapitre 15 verset 16. Et en ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, je vous le dis, toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Saint Jean chapitre 16 verset 23. Ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, donc en mon nom, dit le Seigneur, ils, vous et moi, chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira pas. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Saint Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voyez-vous, certains théologiens pensent que ces versets-là ont été peut-être ajoutés comme ça par un illuminé qui voulait les mettre ainsi. Mais non, nous pouvons croire chaque mot de la sainte parole de Dieu. Et pourquoi ne pas essayer d'y croire? Quand la sainte parole utilise le terme en son nom, eh bien cela comprend tout ce dont Dieu a investi, tout ce que dont Dieu le Père a investi son Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. Une merveilleuse vérité révélée dans la sainte parole, c'est que lorsque nous prions en son saint nom, eh bien notre prière passe de nos mains pour aller entre ses mains puissantes. Son accomplissement devient donc sa responsabilité légale. Il est dit dans Saint Jean, chapitre 14, versets 12 à 14, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi, fera lui aussi les œuvres que moi je fais. » Et ensuite, il est dit quelque chose de surprenant. « Et il ou elle fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, Jésus-Christ, je m'en vais au Père, auprès du Père. et quoi que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, Jésus-Christ, je le ferai. Saint Jean 14, versets 12 à 14. Jésus a reçu toute autorité, et cela pour toute l'éternité. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18. Il lui a aussi été donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres, et même ceux qui sont infernaux, et que toute langue puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Donc, ce nom évoque ces choses pour le Père. La rédemption est donc accomplie, le règne de Satan est brisé, et le plan originel du Père pour l'homme est pleinement garanti. Le Père reconnaît donc nos droits légaux ainsi que notre droit familial de nous servir de ce merveilleux saint nom. Il sait aussi que la bonne utilisation de ce saint nom délivrera tout homme du péché, de la maladie et d'une vie de défaite. C'est aussi à la gloire de Dieu qu'il entend ce saint nom dans nos prières et qu'il peut y répondre selon notre foi en son saint nom. L'Église primitive comprenait tout à fait cette puissance qui lui avait été donnée, comme nous le voyons dans le récit du miracle à la belle porte. Et comme il ne quittait pas l'apôtre Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Et l'apôtre Pierre, voyant cela, répondit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de tout cela? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété? Et par la foi en son saint nom, son saint nom a raffermi cet homme que vous voyez maintenant et que vous connaissez. C'est la foi en lui, en Jésus-Christ, qui a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres en la présence de vous tous. Actes chapitre 3, versets 11 et 12 et le verset 16. Donc, la merveilleuse nouvelle pour vous et pour moi, elle se trouve dans l'explication qui est donnée par l'apôtre Pierre sur la façon dont ce miracle a été accompli. Ce n'est pas à cause de ma puissance ou à cause de ce que je suis, ni même à cause de ma piété, non, non, non. Mais c'est par son nom, par le nom de Jésus-Christ, par la foi en son saint nom, qui a fortifié cet homme. Ce saint nom est l'une de nos puissantes armes. C'est ça, notre Kalachnikov. La puissance, elle se trouve donc dans cette arme. Non pas en nous, jamais. La puissance de l'arme est libérée selon notre foi. Tous les démons reconnaissent ce saint nom. Mais quelques-uns aussi des Juifs, qui étaient des exorcistes et qui couraient de ça et là, ont essayé d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins, en disant « Je vous adjure par Jésus que Paul prêche » et il y avait là sept fils de Séva. C'étaient des Juifs principaux sacrificateurs qui faisaient cela. Alors, l'Esprit leur a répondu ceci. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Actes chapitre 19, versets 13 à 15. Donc, pour les démons, ce saint nom signifie la défaite et l'humiliation totale, car ils doivent lâcher prise de toute personne dont ils ont la maîtrise, à quelque degré que ce soit, quand le Saint-Nom de Jésus est utilisé contre eux. Et pour nous, qui sommes son Église ou son Assemblée, ce Saint-Nom, proclamé avec foi, déclenche toutes les ressources infinies de Dieu afin de nous permettre de continuer l'œuvre de Dieu et du Christ par la puissance du Saint-Esprit. De la même manière que Jésus accomplit l'œuvre du Père pendant les 3 ans et demi de son ministère sur terre, nous devons la poursuivre. Si nous échouons, ce n'est pas à cause d'un manquement de la part de Dieu, non, ni de l'absence de puissance et d'autorité dans le Saint-Nom de Jésus. Ce n'est pas parce que la rédemption n'est pas parfaitement accomplie, ni parce que le diable est plus fort que Dieu, mais ce n'est pas non plus que nous n'avons pas la même puissance que le Saint-Esprit demeurant en nous, et qui, lui, le Saint-Esprit, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, les seules raisons sont donc notre ignorance des privilèges qui nous sont donnés par Dieu selon l'Évangile et notre incrédulité. Dans l'utilisation du Saint-Nom de Jésus, il n'y a que deux conditions. Nous devons croire en union avec Christ et nous devons marcher dans l'obéissance. Il est donc essentiel, en nous attaquant aux esprits du mal, que nous soyons nous-mêmes libres de tout péché, car sinon, il pourrait se retourner avec moquerie contre nous. Il est donc insensé d'essayer de contrôler l'ennemi, Satan, lorsqu'il demeure en nous, un péché quelconque, duquel nous ne nous sommes jamais repentis, car cela donne à l'ennemi un pouvoir sur nous. Mais quand nous marchons à la lumière de sa sainte parole, cherchons toujours à lui plaire au Seigneur, eh bien lui, le Seigneur, par son précieux sang versé à la croix, nous rend plus que vainqueurs. Chers amis, n'oubliez jamais qu'il y a une grande puissance en ces armes. Et là où elles sont utilisées avec foi, l'Église est efficace dans son action. Lorsque nous prions, nous devons nous servir dans la prière de toutes ces armes qui sont mises à notre disposition. La prière n'est pas en soi une arme en elle-même, mais la prière doit, elle, je dis bien la prière, elle doit porter une arme. Sinon, elle demeure sans effet, comme le serait une carabine utilisée sans chevrotine. Je répète cette phrase importante. La prière n'est pas en soi une arme. La prière, elle doit porter une arme, sinon elle demeure sans effet comme le serait une carabine utilisée sans chevrotine. Chers amis, parfois nos armes sont mises en action dans le jeûne, dans la louange, car la louange étant un moyen de libérer nos puissantes armes contre l'ennemi. Ces armes doivent être lancées vers le deuxième ciel. Et là, c'est là où l'ennemi règne, dans le deuxième ciel. C'est comme pour la prière, la louange a vraiment de l'effet quand elle est remplie de la sainte parole de Dieu ou même simplement quand on exalte son saint nom. Israël avait compris ces choses et Dieu veut que son Église aussi puisse saisir pleinement ses privilèges. Il y a bien longtemps, lorsque Josaphat a été le roi de Juda, son pays, un jour, a été envahi carrément par les Moabites et les Ammonites. Or, quand la nouvelle est parvenue au roi, il a proclamé un jeûne pour tout Juda. L'une des plus grandes professions de foi, c'était la part, on peut dire, elle fut faite par Josaphat lorsque tout son peuple était rassemblé pour chercher la face de Dieu et pour implorer son aide. Alors que tout était vraiment contre eux et que les armées ennemies étaient de loin de beaucoup supérieures en nombre, eh bien le roi Josaphat se tenait debout devant toute l'assemblée d'Israël simplement pour prier. Il a dit, « Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas ? Car il n'y a pas de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons pas ce que nous devons faire, mais nos yeux sont braqués sur toi. » 2 Chroniques chapitre 20, verset 12. Je prends parfois des versions allemandes et c'est des fois certains mots différents, des synonymes, mais qu'au fond, cela veut dire la même chose que votre version biblique française. Chers amis, face aux attaques de l'ennemi, pouvons-nous tourner le regard vers Dieu plutôt que vers tous nos problèmes? Dans le psaume 121, David mettait ce principe en évidence lorsque il dit « J'élèverai mes yeux vers les montagnes d'où me vient mon secours. Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les yeux et la terre, qui a fait les cieux, donc tout le firmament, tout l'univers, donc qui a fait les cieux et la terre. » Versets 1 et 2 du psaume 121. Parfois, il nous faut décider décidé par un acte de volonté, et il nous faut lever les yeux vers Dieu en les détournant de tous nos problèmes. David dit, j'élèverai mes yeux vers les montagnes. Eh bien, nous aussi, nous devons nous faire violence. Nous devons porter toute notre attention sur Dieu, car il est plus grand que tout problème humain. Et aussi longtemps que notre attention se porte sur la gravité de notre problème, eh bien nous ne nous attendrons pas à celui qui peut pourtant nous délivrer. Josaphat avait les regards sur Dieu et non pas sur les envahisseurs. Ça fait toute la différence. Or, tout à coup, l'Esprit du Seigneur est venu sur un Lévite qui descendait d'Azaph. Il était nommé Jacques-Hatziel. Et Jacques-Hatziel se mit à prophétiser. Il dit, dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 15, « Ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette très grande multitude, car cette guerre, elle n'est pas la vôtre, mais c'est celle de Dieu. » Cette prophétie leur dit ensuite à quel moment ils devraient descendre contre les armées. Et puis le Seigneur leur donna cette promesse où il est dit dans le verset 17 de 2 Chroniques chapitre 20, ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 17. Alors le lendemain matin, ils se sont levés tôt pour aller rencontrer les armées au lieu choisi et indiqué prophétiquement par l'Esprit Saint de Dieu. Josaphat a donc donné un dernier avertissement alors que le peuple se préparait pour avancer. Au verset 20 de 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, il est dit « Croyez à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. Mettez votre confiance en Dieu, dit-il aux soldats. Gardez les yeux fixés sur lui, sur Dieu. Croyez à cette parole prophétique qui dit que la bataille est la sienne et non pas la vôtre. » La suite de cet événement fait partie de l'histoire militaire. L'armée de Juda avança, les premiers rangs étaient formés de musiciens désignés qui chantaient les louanges de Dieu. Aujourd'hui, évidemment, si on faisait une chose pareille, on nous enverrait dans un hôpital psychiatrique pour le restant de notre vie. Ils glorifiaient le saint nom du Seigneur. Ils faisaient monter des louanges renforcées par une arme puissante qui est le saint nom du Seigneur et qui est sa souveraineté. Et au moment même où ils commençaient le chant de triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de de Séhir, qui venaient contre Juda, et ils furent tous battus. Verset 22. Les notes marginales hébraïques, elles nous apprennent qu'en fait, ils se sont tous entretués. Rappelez-vous l'histoire de la tour de Babel. Ils ont reçu un esprit de confusion. Et vous pouvez lire la suite. Donc, l'embuscade qui était tendue par le Seigneur fut un esprit de confusion. Et dans la terreur et la confusion, les armées se sont tournées les unes contre les autres, comme à la tour de Babel, en se détruisant mutuellement et même complètement. Et il n'y a eu pas un seul rescapé. Or, les enfants de Juda ont mis 3 jours à ramasser le butin, car il était très abondant. Tout fut laissé par les morts. Verset 25 de 2 Chroniques, chapitre 20. Si nous avions pu voir la bataille qui se déroulait derrière le voile ce jour-là, sans aucun doute, nous aurions vu les armées célestes de Dieu s'affronter aux armées démoniaques. Et après avoir jeûné et prié, Juda n'eut que à louer Dieu et à attendre dans le calme, tandis que la confusion totale réduisait les armées à néant et qu'ils se sont entretués dans un tohu-bohu ou tohu-bohu monstre. J'aimerais vous donner maintenant le témoignage d'une missionnaire. Vous savez que chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, aura à rendre des comptes devant Dieu. Si nous émettons un témoignage faux, mensonger, ce serait épouvantablement grave. Alors ce témoignage, vous pouvez le croire ou pas le croire, c'est donc votre choix. Voici le témoignage. J'ai l'impression que c'est probablement un ange qui a mis en notre faveur la confusion dans le KGB un certain soir dans un pays de l'Est derrière le rideau de fer. Nous étions une équipe de 4 membres en mission et nous avions fait entrer clandestinement de la littérature chrétienne. Tard un soir, nous sommes rentrés à l'hôtel après une réunion avec des croyants pour constater que, en notre absence, toutes nos affaires avaient été fouillées et notre littérature biblique découverte. Nous nous sommes agenouillés pour demander à Dieu ce que nous devions faire. Et il nous dit, par l'Esprit Saint, de quitter le pays par un autre chemin que celui par lequel nous étions entrés. Nous sentions que nous devions partir dès l'aube pour un poste frontière peu utilisé, mais en passant par la montagne. Les autres membres de l'équipe s'endormirent, mais pour ma part, je n'étais toujours pas à l'aise. Je continuais à prier, et en priant, j'ai vu tout à coup devant mes yeux comme un tableau qui allait décrire tout le plan de Satan. Je voyais notre équipe dans la chambre d'hôtel. Il était 3 heures du matin. Tout à coup, j'entendis la mise en marche de l'ascenseur qui s'arrêtait au 4e étage de qui était le nôtre. C'était notre étage. Dans le profond silence de la nuit, car les nuits sont particulièrement silencieuses dans les états policiers, où personne, on le sait bien, n'ose bouger, sauf les représentants du parti. J'entendais ouvrir les portes, puis j'entendis le son de lourdes bottes qui se dirigeaient vers notre porte et j'entendis le bruit fracassant de poings, la martelant, qui frappait la porte. Et c'est ainsi que j'ai vu tout cela. Une terrible image. Et je fus pétrifié de peur quand j'ai compris la signification de ce que j'allais voir bientôt. En effet, Satan complotait de nous faire tous arrêter par le KGB à 3 heures du matin. L'une des tactiques utilisées dans les états policiers ou tout autre pays dominé par la crainte, c'est l'arrestation au milieu de la nuit. Cette stratégie a pour but la terreur et la désorientation totale. Il est bien plus facile ainsi d'obtenir des aveux dans ces conditions, d'obtenir la confession de personnes innocentes. Le Saint-Esprit m'avait donc mis en garde. Mais que pouvais-je y faire? Le Seigneur m'avait dit qu'il fallait prier jusqu'à l'aube. À genoux, là, auprès de mon lit, je passais donc la nuit dans la prière et la supplication. Il se faisait tard. L'autel était depuis longtemps dans un silence complet et rien ne bougeait. Subitement, en effet, vers 3 heures du matin, j'entendis le grincement de l'ascenseur qui montait. Il s'arrêta à notre étage, exactement comme je l'avais vu dans la vision quelques heures plus tôt. Puis j'entendis le bruit lourd de bottes dans le couloir. J'avais caché mon visage sur le lit en entendant tous ces bruits. Je les avais déjà entendus, mais maintenant, je vivais un cauchemar au lieu de le voir simplement en vision. J'étais figé sur place en attendant le martèlement sur ma porte qui devait suivre. Mais, les bottes ont continué leur marche et j'entendis frapper à une autre porte. Et des bruits confus et étouffés, puis tout à coup le silence. Que s'était-il passé? Je réfléchissais promptement, essayant de trouver une explication à ce que je venais d'entendre. Il était évident que la police, venue pour une arrestation nocturne, apparemment, elle s'est trompée de chambre, mais pas d'étage. Avait-il, sans raison, réveillé de braves camarades à eux qui dormaient dans cet hôtel? Je pense que oui. Dieu avait d'une façon ou d'une autre mis une embuscade contre ce projet de nous amener à la police pour être questionnés et peut-être même emprisonné. Puis l'Esprit de Dieu me dit de tirer les épais rideaux qui avaient caché la nuit. C'était maintenant l'aube, et maintenant, nous dit l'Esprit, partez. Nous nous sommes enfuis vers la frontière, dans la montagne. pour rencontrer d'autres difficultés différentes, ayant projeté, évidemment, de rester encore plusieurs jours, nous avions dû échanger malheureusement nos dollars pour des devises du pays, et nous nous sommes aperçus alors qu'une petite partie seulement de ces devises pouvait être transformée de nouveau en dollars. En fait, ils ont, je parle de la police, l'ennemi, ils ont gardé la plus grande partie de notre argent en nous interdisant tout simplement de sortir du pays. Pas d'argent, on ne peut pas aller bien loin. Parti sans problème, nous étions par contre terriblement à court de fonds. D'autant plus que nous devions vivre encore plusieurs jours avant la date fixée pour le retour. Nous étions bloqués avec une insuffisance pécuniaire totale et nous avons décidé d'accepter une invitation pour visiter le quartier général d'un ministère dans le sud-ouest de la France. Le voyage était assez long. On devait traverser des pays jusque-là inconnus pour nous. Nous sommes passés par l'Autriche, ensuite par la Suisse, et nous sommes arrivés en France, et là, nous avons pris la direction vers le sud. J'étais assise sur le siège avant de notre voiture de location et je priais. Nous étions tous épuisés et sans compter que nous avions vraiment faim. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter tout simplement dans n'importe quel hôtel, car il nous aurait fallu un hôtel à prix très très modéré, mais personne d'entre nous ne parlait le français. Comment pourrions-nous trouver un tel endroit correspondant à notre bourse très démunie? La nuit tombait et il nous fallait trouver où nous reposer. On aurait dit que l'oppression de l'ennemi continuait à nous poursuivre, même en dehors des pays communistes. Je m'accrochais à Dieu afin d'être délivré de ce harcèlement démoniaque qui nous poursuivait à travers l'Europe. Je m'attendais à lui, au Seigneur, et je confessais de ma bouche une promesse qui se trouve en Deutéronome, chapitre 33, verset 27. Voici la promesse. « L'Éternel Dieu est ton refuge et au-dessus de toi, plutôt au-dessous de toi, sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi devant toi et il dit « Détruis ». Et j'ai mis l'accent sur la fin de la phrase « Il chasse l'ennemi devant toi et il détruit ». Je répétais cela en réaffirmant tout cela dans mon cœur et âme, élevant, comme l'a fait Moïse avec sa verge, j'élevais donc ces mots. Et tout à coup, le toit de la voiture semblait disparaître, et là, au-dessus de nos têtes, j'ai vu un ange magnifique qui se déplaçait à la même vitesse que la voiture. Il était grand d'environ 3 mètres, il avait d'énormes ailes et une longue robe blanche. Sa main droite, tendue vers l'avant, semblait repousser en quelque sorte toute opposition sur notre route, et sa main gauche touchait la voiture comme pour la protéger. Ses yeux rencontrèrent les miens, et en cet instant, un petit mouvement parut annoncer l'exquise d'un sourire. Mais je ne le saurai jamais, parce que la vision tout à coup disparut et le toit de la voiture était de nouveau en place. Mais j'ai vu ce que j'ai vraiment vu. Et comme je réfléchissais à cette vision, stupéfaite par cette courte révélation du monde spirituel derrière le voile, essayons d'en comprendre la signification. Nous avons pu voir soudain un petit panneau de signalisation indiquant l'adresse d'un bureau d'information pour touristes où l'on parlait l'anglais. Par la suite, je suis souvent passé par là, mais bien que j'ai cherché ce fameux panneau, je ne l'ai jamais plus retrouvé. Avait-il été placé là afin de nous diriger, dans notre immense fatigue, vers un guide parlant anglais? Peut-être. Mais nous avons rapidement trouvé le bureau de tourisme où on nous a expliqué, après avoir raconté tous nos problèmes financiers à une jeune femme, et elle nous a fait comprendre que nous pouvons nous reposer là et nous pouvons recevoir un adorable souper, un repas français. Et Dieu avait donc marché devant nous pour nous guider vers ce lieu confortable. Et nous nous sommes réjouis de sa bonté. Peut-être le but de cette vision était-il de nous montrer de façon très précise cette vérité spirituelle que les anges accomplissent véritablement ce que nous confessons dans la prière. Cet ange repoussait littéralement tous les ennemis devant nous, accomplissant ainsi les paroles que je confessais pendant notre voyage à travers la France. La plupart d'entre nous ne réalisons pas encore combien il est important de confesser la sainte parole appropriée, et cela à haute voix. J'ai une amie dont le mari avait fait une très sérieuse crise cardiaque. Eh bien, il a pu faire cette expérience lorsqu'il se trouvait en réanimation aux portes de la mort. Mon ami croyait profondément à la guérison divine, mais son mari n'avait jamais cru que la guérison pouvait faire partie de l'œuvre du calvaire. Néanmoins, voici son témoignage et de la nécessité de confesser de vive voix que Jésus est vraiment celui qui nous guérit. Il dit, cet homme, « J'étais là, allongé, avec tous ces tubes et ces fils qui contrôlaient ma vie, on peut dire, déclinante à vue d'œil. Malgré tout ce que pouvaient faire les hommes, les médecins, pour aider, j'étais en train de mourir et je le savais. Soudain, au plus profond de mon cœur, j'entendis la douce voix de l'Esprit-Saint qui me disait « Il te faut confesser de ta bouche que par ces meurtrissures, je suis guéri. Je bougeais mes lèvres faiblement et ma voix était inaudible lorsque j'obéis en prononçant ces paroles. Puis, tout à coup, je sentis très légèrement une force grandissante. Je fis à nouveau cette confession et cette fois-là, quoique encore faible, eh bien, tout devenait audible. Et une fois encore, je fus fortifié de toute la faible force de ce corps mourant. Et je confessai distinctement en disant « Par tes meurtrissures, Jésus-Christ, je suis guéri. Merci Seigneur. » Et instantanément, une vision merveilleuse est venue devant les yeux du mourant. Un ange, grand et lumineux, se tenait au pied de son lit. Dans ses mains puissantes, il tenait une épée, et ses yeux étaient fixés non pas sur le malade, mais attention, sur quelque chose, plutôt sur quelqu'un qui se trouvait derrière le mourant, qui se trouvait juste au-dessus de sa tête. Et lorsque l'ange visa l'autre être de son épée, son regard était aussi fulgurant qu'un éclair au travers de ce beau et saint visage. Et le mari de mon ami a pu voir la créature ainsi attaquée par l'ange. C'était terrible à voir. Oui, voyez-vous, ce démon responsable de sa crise cardiaque, de toute façon, aussitôt le coup d'épée qui a été donné par l'ange guerrier, l'esprit de mort imminente a tout à coup quitté cet homme et il a su au même moment qu'il vivrait et qu'il proclamerait l'œuvre extraordinaire qui avait été faite par Dieu en sa faveur. Il guérit complètement et il partage maintenant ce merveilleux témoignage. Quel est l'aspect le plus significatif de cet événement? Eh bien, c'est le suivant. Apparemment, l'ange n'a pas pu agir que au moment, écoutez bien, que au moment où le mourant a placé l'épée entre les mains de l'ange. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épée, c'était la confession de la sainte parole de Dieu. Cette parole que l'Esprit de Dieu lui demandait d'articuler de façon audible. Et c'est alors que la confession est devenue une arme. Son ange s'en saisit immédiatement pour combattre, lui sauvant ainsi la vie. C'est donc à nous de donner l'épée aux anges qui nous aident. Devant les problèmes, c'est à nous de confesser ce que dit la sainte parole de Dieu. Les anges veillent constamment afin de pouvoir combattre pour nous quand de notre côté, nous faisons notre part et que nous leur en donnons la possibilité. L'être angélique avait dit en son temps, rappelez-vous, au prophète Daniel, Daniel, je suis venu à cause de tes paroles. Notre prière doit donc avoir pour fondement la sainte parole de Dieu. Nous-mêmes devons être fondés sur elle, témoignant catégoriquement de ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Et nous devons le dire et louer Dieu. Nous devons l'exalter et lui demander dans le merveilleux nom de Jésus ce dont nous avons besoin. Ce sont donc là les paroles qui permettent aux armées célestes de combattre pour nous. Nous n'avons pas à donner des ordres aux anges de Dieu, évidemment, car de toute manière, ils sont rendus libres pour agir par la prière scripturaire, par le jeûne, par la confession et par la louange. Les anges sont continuellement sur le qui-vive pour être les muscles qui activent nos paroles opportunes. Chers amis, il est dit que les armées célestes accompagneront l'armée de Dieu dans les temps de la fin, et nous y sommes bientôt. Le psaume 68, qui est un psaume messianique, parle du temps où une puissante armée avancera en proclamant aux nations la sainte parole de Dieu. Il s'agit de l'armée de Dieu des derniers temps. Notez le psaume 68, verset 17. Ce psaume donne à cette armée une glorieuse promesse. Les chars de Dieu sont par 20 000, par milliers redoublés. Le Seigneur est au milieu d'eux. Ça, c'est un Sinaï en sainteté. Cette armée de Dieu qui avance en prêchant l'évangile à toute créature, elle ne sera pas seule. Une grande foule d'anges les accompagnera alors que l'évangile pénétrera parmi les nations dans les derniers moments de notre ère. Dans une grande mesure, l'Église n'a pas su combien elle pouvait s'approprier l'aide des armées célestes. Pourtant, l'Église primitive semblait agir conformément aux principes divins nécessaires. Heureusement, nous entrons à nouveau dans une position d'accord avec les lois spirituelles de Dieu, où les armées célestes peuvent légalement combattre pour une Église militante. Afin de s'assurer l'aide du Très-Haut, il est indispensable que nous servions de ces armes spirituelles que sont la sainte parole de Dieu, que sont le sang de Jésus-Christ et le saint nom du Seigneur. Nous devons donc lancer ces armes avec efficacité. Nous pouvons le faire par la prière. Nous pouvons le faire aussi par le jeûne et la prière. Nous pouvons les utiliser ses armes, par la confession de notre bouche et dans la louange. Nous devons donc persévérer jusqu'à la victoire. Chers amis, n'oubliez jamais que l'ange qui apporte la réponse est déjà en route, comme dans le temps de Daniel. Avant de terminer par la prière pour ceux qui possèdent l'Internet, j'aimerais vous dire que vous pouvez écouter gratuitement des séries concernant les anges, le ciel et l'enfer et des tas d'autres sujets, puisqu'il y a plus de 3000 CD. Et vous pouvez donc chercher www.bibleexplique.ch. Je répète, www.bibleexplique.ch. Et maintenant, chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur, tu nous offres la douleur pour nous conduire à la joie. Et tu es obligé de nous faire mourir pour que nous puissions revivre. Lie-nous solidement à toi pour que nous puissions affronter la souffrance et que nous puissions savoir aussi endurer la souffrance. Toi qui n'as vu, qui n'as pas pu éviter, non, tu n'as jamais pu éviter les larmes, tu n'as jamais pu éviter les combats et les déchirements. Toi qui as été forcé même de mourir à la croix pour nous sauver, toi qui as été obligé parce que tu étais sur la terre et que tu étais l'un des nôtres, tu as souffert pour nous de toute manière. Aide-nous à recevoir et à accepter les épreuves, à nous en nourrir comme d'un pain fortifiant. Oui, donne-nous le goût du saint renoncement et rends-nous capables de perdre joyeusement même notre vie s'il le fallait pour l'amour de toi et de l'Évangile. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et demain matin, Dieu voulant, la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu aime tous ceux qui un jour ont compris qu'ils étaient perdus et qui ont accepté la main tendue de Jésus-Christ pour être sauvés pour l'éternité. Amen. Amen.